Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h18, le petit déjeuner présidentiel ce matin, c'est Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France et candidat à l'élection présidentielle.
Bonjour Nicolas Dupont-Aignan.
Bonjour Patrick Roger.
L'explosion des candidatures à la présidentielle, de Taubira à celle de droite, la question des ralliements, les propositions pouvoir d'achat, économie, sécurité, immigration, autant de questions que nous allons essayer d'aborder. Vous restez avec nous jusqu'à 9h30, les auditeurs vont pouvoir réagir et vous appeler, vous interpeller, vous poser des questions tout à l'heure à 10h moins le quart avec Cécile de Ménibus et puis nos autres éditorialistes. Commençons quand même, avant d'aller à droite, sur ce qui s'est passé à gauche avec la victoire de Christiane Taubira à la primaire populaire. Qu'est-ce que ça peut changer, selon vous, pour la gauche et peut-être aussi pour cette présidentielle ?
Mais je vais vous dire franchement, j'en sais rien. Je trouve toujours bien qu'il y ait des primaires parce que je préfère que ce soit les électeurs qui s'expriment plutôt que les sondages sur 900 personnes. Mais pour autant, j'ai pas l'impression qu'ils reconnaissent la validité de cette primaire, ce qui est quand même gênant. Donc je n'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien.
Non, mais la candidature de Christiane Taubira, elle va mettre un certain nombre de sujets sur la table que peut-être d'autres ne mettaient pas.
Moi,
à gauche.
Dire, hein,
et puis,
je vais vous surprendre.
Oui.
Je pense que le plus grand péril,
oui,
c'est le repli des Français sur eux-mêmes, le refus de voter, une présidentielle qui passe à côté du peuple, kidnappée par les sondages et les partis. Tout l'inverse de ce que voulait le général de Gaulle avec l'élection au suffrage universel. Donc moi, je pense que s'il y a des candidats différents, des personnalités fortes, des propositions multiples, c'est tant mieux pour la démocratie. Ce que je regrette, c'est que le débat ne commence à peine que maintenant, alors qu'on est à presque 2 mois d'un scrutin absolument majeur, que les Français ont le tournis parce qu'il n'y a pas eu le temps de maturation. Et donc maintenant, merci de m'inviter, merci de faire liberté, qu'il y ait une vraie liberté de candidature. Et puis si Madame Taubira, Madame Taubira dira ce qu'elle a à dire, et les Français auront le choix.
Oui, hein, bon, c'est ça. Alors il y en a quand même qui se disent, oui, mais là, à un moment donné, il y a trop de candidatures, c'est synonyme de division dans tous les camps.
Mais ça veut dire quoi, division ? Vous savez, la plus grande division qu'il y a, c'est que si on continue comme ça, il y aura très peu de votants. Il y aura un président élu qui n'aura aucune légitimité populaire et la France sombrera dans la violence.
Donc ce que vous dites, c'est que finalement, plus il y a de candidats,
je dis pas qu'il y en
plus
50,
il peut y avoir des...
Mais ce que je veux dire, on raconte toujours les mêmes sornettes.
Des votants.
Ce que j'aimerais, c'est qu'on s'intéresse aux propositions des uns des autres.
Bien sûr.
Parce qu'on perd du temps à commenter la liberté, la démocratie. Quant aux États-Unis, il y a des primaires avec 11 candidats. Vous savez, Obama et Trump n'auraient jamais été élus si on avait un système français. Alors, on peut s'en réjouir, s'en désoler, mais le problème de fond, c'est le manque de démocratie dans notre pays, c'est le manque de liberté. Moi, je l'analyse comme ça. Donc, qu'il y ait des candidats, les Français sont assez grands pour choisir. On a l'impression, à entendre les commentaires, qu'on infantilise les Français. Mais les Français, ils sont tout à fait capables de choisir. Laissez-leur le choix.
Bien sûr.
Voilà.
Donc ils vont avoir le choix.
Eh bien, très bien.
Mais
d'abord,
alors,
il y en aura moins que vous croyez.
Le problème de
il y en
la
aura
liberté.
Moins que vous croyez à la fin. Il n'y en aura pas plus de 10, comme à chaque fois. Et en fait, comment vous dire ce que je ressens ? C'est qu'on parle de tout sauf de l'essentiel. Quels sont les défis du pays ? Qui est capable de les relever ? Avec quel projet ? C'est ça l'élection présidentielle. Après, de commenter Madame Hidalgo, Madame Taubira, Monsieur Zemmour, Madame Le Pen, en fait, ça écrase
Monsieur
tout.
Monsieur Dupont-Aignan.
Oui, je préfère qu'on on parle rarement de moi, mais je vous remercie de m'inviter. Donc,
vous êtes invité partout depuis des années. On vous entend.
Pas dans les grandes.
Pas dans les JT.
Attendez. Bon. Les journaux télévisés avec 6-7 millions d'auditeurs sont réservés à quelques-uns.
On vous avait entendu, notamment quand il y avait eu le ralliement à Marine Le Pen.
Oui, mais ça, c'est pas ma candidature, c'était un second tour.
Oui.
Ne confondons pas tout. Une élection présidentielle, c'est quoi ? C'est normalement que les Français ont le choix. Et le général de Gaulle, je le rappelle, détestait les partis politiques, les sondages, il y en avait très peu, d'ailleurs il était à 3% le pauvre. Détestait ce milieu qui étouffait la démocratie et a voulu rendre le pouvoir aux Français. Depuis sa disparition, au fil du temps, tout a été fait pour confisquer le pouvoir. Moi, je suis candidat pour une seule chose.
Oui.
Rendre le pouvoir aux Français. Rendre la liberté aux Français. C'est tout le cœur de mon programme. Parce que les promesses sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, tout le monde en fait. Les Français, de toute façon, n'y croient plus.
Bon, donc moi, vous vous présentez dire... comme le président des libertés, alors, c'est
oui,
ça
enfin, tout à fait.
Le président, le candidat,
oui,
en tout cas.
Oui, un homme. Ouais. D'abord, je suis libre dans ma tête. Je n'appartiens pas à une oligarchie. Je n'ai jamais subi les conflits d'intérêts ouais. qui sont la marque du macronisme. J'ai été oui. libre et j'ai fait mes preuves en redressant une commune en difficulté. Et je veux la liberté de la France par un référendum sur l'Union européenne pour qu'on revienne à une Europe des nations. Et je veux surtout rendre la liberté aux Français en supprimant le pass vaccinal, en supprimant tout cet enchaînement qui étouffe nos concitoyens et qui les empêche de vivre. Ça, c'est ma marque de fabrique. Les autres ne sont pas nets là-dessus. Oui. Moi, je suis clair et on peut tout me reprocher. Mais j'ai toujours été clair depuis ouais. le début
Alors,
de la crise sanitaire.
En quoi vous vous distinguez quand même des autres candidats dans votre camp à droite? Je pense en fait
D'abord,
à Éric Zemmour
pas,
et moi.
Alors, je vous reprends tout de
oui,
suite, pardonnez-moi
bah,
de vous interrompre.
Ah, bah, non, mais je vous en prie.
Je n'appartiens pas à un camp, il
ouais.
n'y a pas un camp à droite. Il y a des partis politiques totalement discrédités qui ne représentent pas les Français. Il y a un peuple bah,
reconquête
qui n'en peut plus.
D'Éric Zemmour, c'est pas en fait un parti qui existait précédemment,
non,
donc il n'est pas discrédité.
Non, d'accord. Mais justement,
bah,
c'est
qu'il
y en a
pas,
un nouveau. Ce ouais. que je veux dire, c'est que les Français n'appartiennent pas à des écuries, n'ont pas un label. Les partis politiques ne sont pas propriétaires. Et moi, j'invite les Français à se libérer de tout ça, à voter en fonction de leur âme et conscience. Voilà, c'est tout. Alors, après, ce qui me différencie des autres,
bah oui,
c'est deux choses.
Ouais.
Une expérience locale. J'ai été 22 ans maire. J'ai sauvé une ville qui était en faillite. J'ai été réélu 3 fois à près de 80% dans une ville qui était plutôt de centre-gauche.
Ouais.
Ça veut peut-être dire que j'ai fait des preuves. Deuxième point, j'ai jamais changé de conviction sur la dépendance de la nation. Troisième point, j'ai des propositions très concrètes. Sans décision pour la France, et je suis le seul à les avoir chiffrés.
Bon, bah,
j'ai
alors,
même publié un livre. J'ai même publié un livre en
oui.
mois d'octobre,
oui.
Où va le pognon, où j'ai expliqué qu'il fallait arrêter avec les promesses que personne ne croit,
oui.
et qu'il y avait 100 milliards d'euros à récupérer,
alors,
qui étaient gaspillés chaque année, et avec ça, je finance mes propositions. Voilà. Donc, j'ai une petite expérience quand même qui a fait ses preuves. Je suis libre des intérêts qui gangrènent l'État. Et je veux rendre la liberté et le pouvoir aux Français par notamment le référendum d'initiative
bon,
citoyenne.
Bah, on reviendra sur les ralliements tout à l'heure, je pense, avec les
voilà.
auditeurs qui auront des questions à vous poser entre Marine Le Pen, Éric Zemmour et puis d'autres candidats. Allons-y alors sur vos propositions. Donc quand vous dites 100 milliards, vous aviez évoqué, et c'est l'un de vos combats depuis longtemps, des autoroutes.
Hein, oui.
Demain, les prix vont augmenter. Alors, qu'est-ce que vous voudriez faire sur
c'est
ces autoroutes ?
C'est très simple. Je renationalise toutes les sociétés d'autoroutes. Et en 5 ans après, quand on a amorti le coût de la renationalisation par les
Combien
péages...
Le coût
sera... Le coût de la dette qui reste.
40 à 50 milliards,
non,
dit-on.
Non, c'est complètement faux.
Ah bah alors, c'est ce qui est annoncé par le
ministre.
Par
Bruno Le Maire qui a privatisé les autoroutes ouais. et qui est le complice d'une oligarchie qui rackettent les Français.
Ouais.
Moi,
bon,
je vous le dis, il n'y a pas d'indemnité
à donner. Vous chiffrez à combien, alors, justement ?
Moi, je le chiffre uniquement aux ouais. dettes des ouais. autoroutes,
ouais.
que
c'est
nous
dire,
finirons
c'est-à-dire,
de rembourser.
C'est combien ?
Actuellement, je ne sais plus à combien elles sont, elles doivent être à 20 milliards à peu près, 16
D'accord.
milliards, 20 milliards.
Ouais.
Et puis, quand on aura
alors,
fini de payer...
C'est pas très précis, je croyais que vous étiez très précis dans votre chiffrage,
mais
Nicolas Dupont-Aignan.
Je vais le reprendre.
Bon, d'accord, mais on verra tout à l'heure.
Je vais le reprendre, il est dans mon chiffrage, il est consultable sur Internet, vous avez tout.
Bon, d'accord.
De mémoire, c'est 16 milliards.
En tout cas, ce n'est pas 40 à 50 milliards à avancer par...
Ça, c'est pour dissuader les Français de reprendre en main les autoroutes. Mais moi, je ne suis pas démago. Je dis que je supprimerai les péages, tous les péages, en 2027, 5 ans après. Pourquoi ? Parce que pendant 5 ans, les péages vont continuer à permettre d'assainir la dette des sociétés d'autoroutes. Et quand on aura remboursé les dettes de construction et
d'entretien,
travaux,
bah ça coûte cher quand même.
Attendez,
ça.
Deux
oui.
choses.
Oui.
Il y a la construction des autoroutes.
Oui.
Beaucoup sont déjà amortis. Ont été remboursés. Donc, c'est du racket total des sociétés. Certains, ils ont fait des travaux, il faut finir de les payer. Quand on a fini de payer tout, ça prend 5 ans. Les dividendes des sociétés d'autoroutes, pour vous dire, là, c'est très précis, c'est 3 milliards par an. Dividendes nets, 3 milliards.
Ouais.
Quand 3 milliards multipliés par 5, ça fait 15, vous voyez, on était à 16, on y est presque. Eh bien, je supprime tous les péages. Plus de péages en France. Et l'entretien des sociétés des routes et des autoroutes, je le finance par une taxe sur les camions et voitures étrangères qui rentrent dans notre pays.
Bon, donc voilà, comme c'est le fait votre la projet Suisse nationalisation. Est-ce que vous voulez faire la même chose, par exemple, avec EDF, comme le proposent aussi d'autres, Yannick Jadot,
oui,
par exemple,
EDF. Il faut
EDF,
reprendre la majorité.
Et puis alors les maisons de retraite, bah,
non.
On va y aller.
Non, attendez, moi je ne suis pas l'Union soviétique.
Oui. Bah, non, choses. Mais c'est marrant parce que vous êtes un libéral, mais vous voulez nationaliser. Vous êtes de gauche, finalement, non?
Non, je ne suis pas pour les monopoles privés. Je suis pour la libre concurrence, je veux baisser les charges des PME, je veux permettre à nos entreprises de relocaliser et je propose la réduction de moitié de l'impôt sur les sociétés quand le bénéfice est investi sur le territoire français. Ça, c'est une mesure de libéralisation pour inciter les entreprises à produire en France. Mais je n'accepte pas que par copinage politique, du bien public ait été vendu à des oligarques qui font un bénéfice et un racket sur les automobilistes.
Bon, alors ça, alors, c'est pour les autoroutes.
Je reviens sur les autoroutes.
Non, mais EDF, non, mais, attendez, oui, mais on va attendez, pas passer la journée
EDF,
sur EDF.
Oui. EDF, de toute façon, sur les autoroutes, vous trouvez tout sur Internet.
Non, bien sûr.
EDF, c'est très simple. L'Union européenne, avec la complicité des gouvernements de droite comme de gauche, a libéralisé le marché électrique, qui était un fiasco intégral. Donc, je veux revenir à un EDF, une EDF, 100% publique. C'est-à-dire qu'elle est actuellement à 70 de mémoire.
Oui.
Donc il faut qu'EDF reste complètement public, il faut revenir à une situation de monopole, il faut qu'on rebâtisse ce qui a marché très bien, c'est-à-dire un opérateur public qui investit à long terme et qui permet d'avoir l'électricité la moins chère d'Europe. C'était ça. Ils ont tout détruit. Mais pas complètement d'ailleurs.
Mais alors qui
et ils s'en servent.
Qui ils
Les gouvernements successifs et l'Union européenne.
Oui.
Ça aboutit à quoi? Ça aboutit à fragiliser EDF.
Ouais.
Cela aboutit à aligner le prix de l'électricité sur celui du gaz importé pour s'aligner sur l'Allemagne. Cela aboutit à une augmentation folle des tarifs électriques qui a été bloquée par le gouvernement grâce à ce qui reste d'EDF. Donc ça prouve bien qu'EDF était utile et des pays comme l'Espagne ou l'Angleterre qui n'ont plus d'opérateurs publics.
Ouais.
Eh bien, voient leurs factures exploser en Espagne de 35%,
bon, donc,
etc. Donc ça veut bien dire, on a la preuve,
oui,
aujourd'hui par l'exemple, que ce que je disais depuis 15 ans, que j'ai voté contre tous ces traités, toutes ces mesures de privatisation de Gaz de France et d'EDF, eh bien j'avais bien raison, il faut un opérateur public parce que c'est un bien public. Il faut plus de libéralisme pour les PME, pour qu'elles se développent, qu'elles croissent, qui est la liberté d'entreprise quand il y a concurrence.
Oui.
En revanche, quand il y a un bien public et qu'il y a monopole, il faut, faut l'intérêt général.
Un dernier mot avant de la seconde partie tout à l'heure, sur la dépendance et sur les personnes âgées, avec le scandale Orpea. Quelle serait votre position? Quelle est votre position d'ailleurs?
Plusieurs mesures. D'abord, il faut créer une cinquième branche de la sécurité sociale s'occupant de la dépendance, ce qui a commencé d'être fait, mais elle n'est pas alimentée par les recettes qu'il faudrait. Et je prends la CRDS, vous savez, la CRDS, c'était cette taxe qui a été mise pour rétablir les comptes de la Sécurité sociale et qui est utilisée pour payer la dette Covid. Ben moi, je l'affecte à la dépendance pour qu'il y ait un flux financier qui permette d'investir dans des maisons de retraite publiques où il n'y ait pas la loi du profit.
Donc, vous dénoncez justement ce qui s'est passé chez Orpea.
Tout le monde dénonce.
Oui.
Mais attention,
oui,
je crois qu'il faut aussi être clair. Il y aura toujours des maisons de retraite privées. Il y a aussi des abus, parfois, dans des maisons de retraite publiques.
Bien sûr.
Donc, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut simplement contrôler. Les ARS n'ont pas fait leur travail. D'abord, je dissous les ARS, moi. L'Agence régionale de santé, qui ont été le summum de la bureaucratie pendant
la crise
du Covid.
Parce que normalement, elles doivent effectuer des contrôles. Elles ne le font pas,
évidemment.
C'est ce que vous dites, quoi.
Donc, je dissous les ARS.
Oui.
Et je reviens à des structures par département. Parce que quand on avait, j'ai été maire 22 ans, quand on avait une direction départementale de l'action sociale, les DAS, c'était beaucoup plus près du territoire. Ils connaissaient chaque clinique, chaque hôpital, chaque maison de retraite. Il y avait des inspections. Là aussi, les gouvernements précédents ont tout cassé, fait des trucs régionaux, beaucoup trop éloignés du terrain. Donc je reviens à une structure de direction départementale qui contrôle les maisons de retraite. Et puis, j'assure un financement pour qu'on ait le choix entre des maisons de retraite publiques abordables. On peut imaginer aussi le développement du secteur mutualiste, où il n'y ait pas de profit. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des miracles, mais on doit absolument permettre qu'il y ait un financement pour notamment augmenter de 25% le nombre de personnels qui s'occupent des anciens. Ça représente 80 000 recrutements pour que les personnels, parce que on les accable, parce qu'il y a eu des bavures. Il y a eu des bavures, il faut être honnête, toujours.
C'est pas les personnels.
Mais pourquoi il y a des bavures? Parce qu'il y a un rythme infernal, il y a une logique d'extraordinaire profit. Ce sont des entreprises cotées en bourse. Et vous savez, pour moi, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux pour qui la vie n'a pas de prix, et puis il y a ceux pour qui ce n'est qu'un coût. Et c'est là la dérive de notre société.
Allez, Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes notre invité président de Debout la France, candidat donc à l'élection présidentielle. On vous retrouve, il y a des appels
et
d'auditeurs dans 10
minutes. Et je vais vous retrouver le chiffre de la dette des autoroutes parce que vous m'avez pris en défaut.
Voilà, tout à l'heure. Ouais.
Relisez votre programme. Restez avec nous, vous pouvez nous appeler 0826 300 300 ou commenter sur notre compte Twitter. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h47, toujours avec nous Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France et candidat à l'élection présidentielle. Et on vous le dit depuis ce matin, vous pouvez nous appeler 0826 300 300 pour lui poser une question en direct. Et ce matin, Cécile Depau est avec nous. Bonjour.
Bonjour Cécile.
Bonjour Patrick, bonjour, bonjour Monsieur Nicolas Dupont-Aignan. Je suis bonjour, contente madame. De vous entendre et de vous parler.
Bon, alors, posez votre question à Nicolas Dupont-Aignan qui vous écoute.
Oui, alors justement, je rebondis sur la réflexion que Monsieur Dupont-Aignan a faite tout à l'heure à propos des Français et de ce qu'ils pensent. En effet, on parle beaucoup de nous, mais on nous met sur un échiquier, on nous balade d'un endroit à l'autre, d'un parti à l'autre et d'un camp à l'autre. Et ça, je voudrais vous dire que là, vous avez devant vous une électrice, un électeur complètement libre. Et donc, nous avons 2-3 neurones entre les oreilles, nous pouvons écouter, nous pouvons comprendre et nous pouvons choisir. Donc, je voudrais demander à M. Dupont-Aignan ce qu'il pense du paysage politique. Je voudrais prendre un petit peu de hauteur et vous inclure bien sûr dedans. Je vous ai écouté avec attention et je trouve que je peux tout à fait de votre avis sur toutes sortes de points que vous avez énoncés et sûrement d'autres que je ne connais pas encore. Mais je me demande dans quelle mesure ou dans la recomposition du paysage aujourd'hui, qui à mon avis est durable, même au-delà de l'élection présidentielle, il va se passer quelque chose au niveau des législatives. Il y a 3 grands mouvements. J'appartiens comme vous au mouvement de droite. Et là, je vous parlais de ne pas penser à des partis. Mmh. Mais moi aussi, je pense qu'il s'agit vraiment de une recomposition en 3 temps. Et vraiment, je voudrais vous demander dans quelle mesure vous pensez pouvoir résister, vous, en tant que président de Debout la France, et compte tenu malheureusement des sondages.
Résister et ne pas se rallier, c'est ce que vous voulez dire, bah, Cécile. Parlons vrai sur Sud Radio.
Oui, et moi j'ai beaucoup apprécié le ralliement de M. Dupont-Aignan, je trouve qu'il a été courageux en 2017, même si je n'ai jamais été électrice, je n'ai jamais donné ma voix à Mme Le Pen, mais là il me semble que il se passe des choses quand même plus importantes et je souhaite savoir ce qu'il pense.
Cécile, à cette question, parce que d'ailleurs, un Cécile Ménibus, l'autre Cécile, donc ce matin, c'est la question qu'on pose sur les réseaux sociaux aussi. Est-ce que vous devez maintenir votre candidature
ou être candidat, donc soutenir Éric Zemmour, soutenir Marine Le Pen ou en réunion avec d'autres petits partis de la droite? Et pour l'instant, c'est 71%, vous demande Nicolas Dupont-Aignan de soutenir Éric Zemmour.
Bon, alors justement, des ralliements.
Écoutez, je suis gaulliste, républicain. Je suis candidat à l'élection présidentielle pour offrir le choix aux Français. J'ai des points communs avec certains. Sur l'indépendance de la France, je préfère Éric Zemmour à Emmanuel Macron. Mais sur le rassemblement des Français, je pense que la vision qu'a Éric Zemmour de la société française n'est pas la mienne. On a des nuances, on n'a pas le même parcours, pas la même expérience. Et j'estime que les Français ont le droit d'avoir le choix. Je défends cette souveraineté populaire, cette indépendance de la nation et cette liberté des Français, qui me paraît fondamentale, notamment en première mesure à prendre, c'est d'abolir le pass vaccinal et toutes ces contraintes abominables qui ont été mises en place. Mmh. Au-delà de ça, j'ai ma spécificité et je ne me rallierai à personne parce que ce n'est pas l'objet. Il y a le choix et il y a des Français qui ont le droit d'avoir le choix et de ne pas être contraints à voter Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Il y a le choix. Pourquoi me forcer
donc,
à partir?
Pas de ralliement.
Mais candidat.
Mais vous avez vos parrainages
ou pas, en fait? Je ne vais pas me
rallier.
Mais j'espère les avoir. J'y suis pas loin, mais ça va être juste.
Ça va être juste,
comme pour tout le monde.
Et si vous ne les avez pas...
Mais je les aurai, je l'espère, et je ferai tout pour les avoir. Mais ce ne sont pas des sondages changer d'avis ou des questionnaires Internet, et on sait comment tout ça fonctionne. J'estime, comme l'a dit madame, très justement, qu'il y a deux tours à l'élection présidentielle qui sont faits pour ça. Au premier tour, on exprime une préférence. Au deuxième tour, on élimine. Je crois l'avoir fait. Et je l'ai payé cher, mais je ne le regrette pas.
Question
mais
à Eric Chabot et ensuite Cécile.
Distinguons bien
nouveau...
le premier tour et le deuxième tour.
Oui.
Et puis, vous ne savez pas comment va évoluer la campagne. Vous ne savez pas ce que dira M. Zemmour ou Mme Le Pen ou Mme Pécresse. Et peut-être que les Français se diront, tiens, ce monsieur Dupont-Aignan, il n'est peut-être pas favori des sondages, mais il a l'air plus sérieux, il a l'air plus construit, il a une expérience et il a des propositions plus intéressantes.
Oui.
Et au nom de quoi j'aurais pas le droit de le faire?
Pour l'instant,
ça veut dire quoi?
Pas très bien placé
mais
dans les...
Mais les sondages sont faits.
Bon, vous êtes à moins de 2%, mais vous dites, c'est pas grave.
Ouais,
les sondages sont faits.
Attendez, les sondages sont faits sur ceux qui votent.
Oui.
Il y a de plus en plus de Français qui sont hors du jeu.
Non, il y a aussi dans les sondages des gens qui s'abstiennent.
Non, les sondages sont faits sur ceux qui sont certains, c'est même marqué dans la notice, certains d'aller voter. Vous avez plus de Français comme madame.
Non, dans le rolling, pas vrai. Dans le rolling de fiducial avec l'IFOP, c'est pas vrai. Il y a aussi des gens qui montrent leur intérêt, les gens qui ne sont pas certains.
Le rolling de fiducial comme des autres se sont plantés sur 10 points au régional. 10 points.
Oui.
Alors, est-ce que les Français... Madame l'a dit très bien, elle a des neurones. Éteignez les sondages, fermez les sondages, ouvrez vos cerveaux, comparez, et puis voilà.
Bon, non, mais pourquoi pas. Arlette Chabot, Cécile Ménibus, et puis ensuite les auditeurs qui sont
d'ailleurs,
aussi
c'est
des
paradoxal.
Électeurs.
Je peux rajouter un truc.
Mais on ne pourra pas vous poser de questions.
J'entends, je vois sur les réseaux sociaux, Dupont-Aignan vaut rien, il a 1%, il doit abandonner, mais en même temps, on me fait la cour comme jamais, on passe sa vie à parler de moi. C'est bizarre.
Ah, si vous allez nous dire qui vous fait la cour.
C'est bizarre.
Ouais.
Si je ne représente rien, pourquoi ils font tant de soucis pour moi? Qui me laisse libre? Je suis un homme libre, j'irai jusqu'au bout et j'offrirai le choix aux Français.
Ouais, ouais.
C'est l'esprit de la présidentielle.
Ouais.
Quelle place doit occuper la gestion de la crise sanitaire dans la campagne? Est-ce que les anti-vax sont un réservoir pour vous, électoral?
C'est pas les anti-vax. Moi, j'ai jamais été anti-vax. Mais je déteste la manipulation, la propagande qui recommence encore. Il y a une décision extrêmement grave de ce gouvernement et j'appelle les Français à résister. Décision extrêmement grave, vous la connaissez. Alors qu'en Suisse... Le certificat de rétablissement, quand vous avez eu le Covid, est valable un an. Alors que tous les médecins, pro-vaccination, anti-vaccination, disent tous qu'il ne faut pas vacciner quelqu'un qui a des anticorps, ce gouvernement réduit la date de validité du certificat de rétablissement de 6 mois à 4 mois. Ça n'a aucune justification sanitaire. On a l'impression que M. Véran est le représentant de commerce de Pfizer. Moi, je pense que M. Véran va pantoufler à la direction de Pfizer.
Ah c'est une accusation grave, ça.
Ah je pense qu'il est mûr. Il est mûr parce que vous verrez qu'un jour, M. Véran pantouflera chez Pfizer. Parce que imposer, supprimer le certificat de rétablissement pour des gens qui sont bourrés d'anticorps, c'est une honte absolue. Donc je vous le dis, oui, je pense et j'invite tous les Français écœurés par ce qui s'est passé depuis 2 ans à me rejoindre. Et je serai le candidat de la liberté retrouvée.
Question,
et la
Cécile.
Première mesure que je prendrai, d'abolir le pass vaccinal.
Question de Cécile, on retourne au standard juste après.
Je vais revenir sur les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la police. Et je cite, beaucoup de monde déteste la police. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes indigné comme une partie des gens? Ou alors vous souvenez...
Indigné, bien sûr, indigné. Parce que je suis indigné à un double titre. D'abord parce que tout le monde est content de trouver la police quand on est en difficulté. Deuxièmement... Il y a des policiers qui se suicident, qui vivent un enfer, et la société est bien injuste avec eux. Et puis troisièmement, ce que fait Jean-Luc Mélenchon n'est pas bien, parce que c'est un homme intelligent, et je pense qu'il, pour des raisons électoralistes, il instrumentalise un conflit entre une jeunesse qui existe et la police, qui est un conflit grave, inquiétant, qui existe, il ne faut pas le nier, et il le... l'instrumentalise pour en faire une position politique.
Et est-ce que c'est un dérapage?
Ça me paraît grave.
Est-ce que c'est un dérapage?
Je ne pense pas du tout que ce soit un dérapage. Je pense que Jean-Luc Mélenchon est un homme très intelligent, très construit intellectuellement, tout le monde le reconnaît, et qu'il ne le fait pas par hasard. Et ça met ça souffle sur les braises. Et moi, je veux réconcilier. Et je vais vous dire pourquoi aussi je suis candidat, parce que vous me posiez la question éternellement. Parce que le débat Zemmour-Mélenchon, pour moi, ça a été le pire de la politique française. Et j'ai une autre vision. Je partage avec Éric Zemmour l'idée de l'indépendance du pays, mais la manière dont il fait sa campagne, je ne pourrais pas la faire avec lui.
Allez, brièvement, il nous reste une question, donc...
Au 0826 300,
et nous reviendrons.
C'est Cynthia qui nous appelle de Narbonne.
Bonjour Cynthia.
Bonjour Patrick, bonjour Cécile, et bonjour Monsieur Dupont-Aignan. Ma question sera rapide parce que la dame l'a déjà un peu posé tout à l'heure.
Oui.
Ce que je voulais dire, c'était, Monsieur Dupont-Aignan, vous êtes député de l'Essonne depuis 97. Vous avez été maire de Hyères pendant 22 ans, comme vous l'avez souvent cité. Après le RPR et l'UMP, vous avez créé votre parti Debout la France pour ne pas vous coucher aux injonctions de l'Europe et de pseudo-gaullistes. Cependant, voilà, quand vont arriver les élections, c'est-à-dire quand vous serez proche des élections, et que quoi que vous disiez, il est évident que les intentions de vote, elles sont réelles. Une campagne, ça coûte cher. Vous savez qu'à 2%, vous ne serez pas remboursé. Vous êtes sûr que vous ne coucherez pas devant Valérie Pécresse et vous rien dire à elle afin de garder votre siège à la
Fondée. Ah, mais ça, c'est la vieille rengaine.
Allez, oui, question. Donc, est-ce que il paraît qu'il y a des tractations chez vous et qu'on ne vous a pas mis d'ailleurs de candidats pour les législatives.
Méthodes, les petites méthodes de voyous la campagne. Et de faire croire que je serais... Écoutez, j'ai quitté l'UMP sur l'Europe. Vous savez combien fait LR dans ma circonscription ? 6%.
Ah, c'est pour ça qu'ils ne mettent pas de candidat en face de
mais
vous ?
Mais ils n'ont jamais mis à chaque fois, parce qu'ils réservent la circonscription pour un UDI.
Ouais.
Parce que comme ils savent qu'ils vont perdre, ils la donnent à un UDI, ça rentre dans leur comptabilité.
Et puis peut-être que s'il y a un ralliement de Nicolas Dupont-Aignan...
Mais c'est ridicule, mais arrêtez tout ça, ce sont des basses rumeurs. Vous savez ce que supporte pas cette classe politique ? C'est que je sois libre dans ma tête. Que j'appartiens à aucun clan. Ça les gêne. Tous ces petits appareils.
Mais vous prenez position pour le second tour. Vous l'avez fait la dernière fois, vous le ferez cette
mais
fois.
Mais on verra qui sera au second tour. J'y serai peut-être.
Le mieux placé du camp national.
Mais on verra. Mais je ne sais pas qui y sera. Vous ne savez même pas qui
sera.
Allez,
on va rester avec
nous. Mais le mieux placé... Attendez, quand Arlette Chabot dit ça, elle veut dire qu'il y aura Macron. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron ne sera pas au second tour. Donc, vous ne savez pas qui y aura. On a le choix.
Allez, on viendra avec vous, petit déjeuner présidentiel. Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes là encore pendant un bon quart d'heure. Vous pouvez continuer d'appeler 0826-300-300. Vous avez dit tout à l'heure, je ne pourrais pas faire campagne avec lui, Éric Zemmour. On en reparlera dans un instant. Et Éric Revel en campagne, qui arrive dans un instant et qui va nous redire un petit peu aussi ce qui se passe derrière la gauche là actuellement, avec Taubira, Mélenchon. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des points communs entre eux? On va voir ça dans un instant.
À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et c'est la suite dans un instant du petit déjeuner des candidats à la présidentielle. Avec nous ce matin, Nicolas Dupont-Aignan. Et vos appels 0826-300-300, bien sûr, si vous voulez poser des questions. Et Éric en campagne, Éric Revel en campagne tout de suite.
Sud Radio, présidentielle 2022.
Revel en campagne. Bonjour Éric Revel.
Bonjour Cécile. Bonjour Cécile de Minibus.
Voilà, c'est ça.
Éric Revel.
Christiane Taubira donc a gagné la primaire populaire. Du coup, on a l'impression qu'il y a un match dans le match, notamment avec Mélenchon. C'est la primaire de la radicalité.
Ah
c'est
oui,
ça,
oui, c'est sûr. Primaire de la radicalité. Alors bon, elle a gagné avec le bien plus. Hein, vous l'avez dit, hein, on se croirait en CM2. Mais non, c'est la vainqueur de la primaire populaire. Alors ce match dans la radicalité, il faudra le suivre parce que en fait, c'est une sorte de finale de la Coupe des coupes de l'extrême gauche. Mélenchon fait tout ce qu'il peut pour ne pas perdre un pouce du terrain de la radicalité, je vais y revenir, mais on sait que Christiane Taubira va gauchiser jusqu'à plus soif son discours pour tenter, elle, de siphonner les 8 à 10% que les sondages actuels promettent à Mélenchon.
Oui, c'est ça. Mélenchon et son état-major chez LFI, qui n'avaient peut-être pas anticipé cette victoire,
Si, moi je crois pour ma part qu'il l'avait anticipé. Je pense même que l'état-major de LFI, la France Insoumise, comme beaucoup, avait anticipé cette victoire à la primaire populaire de Christiane Taubira pour une simple raison, parce que à gauche, on regardait avec beaucoup d'intérêt ce qui allait se passer, notamment à l'extrême gauche. Anticipation de la victoire de Taubira, ça voulait dire que Mélenchon devait taper lourd quelques jours avant le résultat pour apparaître plus à gauche, plus proche de l'islam, plus anti-flic. C'est ce qu'il a proposé justement comme spectacle lors de l'émission de jeudi dernier sur C8. Mélenchon, plus radical que moi, tu meurs. Il s'attendait à la victoire de Christiane Taubira. Il a voulu prendre les devants.
Oui, c'est ça. Bon, alors, ce n'est pas uniquement un combat politique. Il y a aussi des questions de fond, notamment, par exemple, sur le pouvoir d'achat. Ils s'affrontent, là aussi. Hein.
Oui, sur le pouvoir d'achat, ils s'affrontent. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Christiane Taubira va dévoiler son programme prochainement, incessamment sous peu, comme on dit. Oui, les deux s'intéressent beaucoup aux jeunes, parce que, vous le savez, les 18-24 ans s'abstiennent. Ils ne votent pas à 60%. La gauche, on le sait, aime les mesures sociales, qui sonnent bien, même si la question du financement viendra plus tard. Après tout, comme l'avait dit François Hollande, c'est l'État qui paiera, oubliant que l'État, ce sont les contribuables qui ont fait les poches toujours et encore à la fin de la fête. Donc deux propositions que j'ai retenues à ce stade, puisque Taubira les a pas toutes, n'en a pas vraiment beaucoup dévoilées. Elle propose, Christiane Taubira, la création d'une dotation pour l'autonomie des jeunes qui garantirait, si elle est élue présidente, à chacun pendant 5 ans 800 euros mensuels. Pour Mélenchon, dès 16 ans, une garantie d'autonomie au-dessus du seuil de pauvreté pour que chaque étudiant détaché du foyer fiscal, vous voyez qu'il a travaillé Mélenchon, touche un peu plus de 1000 euros. Donc on s'intéresse aux jeunes, on s'intéresse au pouvoir d'achat et les deux candidats de l'extrême gauche proposent de l'argent aux étudiants. Reste que Mélenchon et Taubira risquent quand même bien de se cannibaliser dans ce match des radicalités sanglants. À la fin, il n'en restera sans doute qu'un. Je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour Mélenchon de voir Taubira sur la ligne de départ. Christiane Taubira, quant à elle, c'est une candidate de plus.
Allez, on réagit donc
au 0826-300-300.
Dans un instant, effectivement, les auditeurs. Mais une réaction, ou peut-être deux, Nicolas Dupont-Aignan, à ce qui a été dit. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une radicalité et que dans chaque candidate va se radicaliser pour se positionner, en fait, un petit peu plus et, entre guillemets, séduire les électeurs?
Je pense, en vérité, qu'il y a un très grand morcellement de la population française, un dégoût de la politique. Et que face à ce dégoût de la politique, au système des réseaux sociaux, des médias, il y a une tentation de la radicalité, de la division. Et moi, je crois l'inverse. Je crois que les Français sont beaucoup plus intelligents que ne le croient les hommes politiques. Je crois qu'ils regardent, ils sont effarés, que la radicalité excite les militants, mais qu'en vérité, les Français attendent là vraiment un rassemblement. Et tout l'enjeu de la présidentielle, et ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est que si on a une élection présidentielle où il n'y a que la moitié des 47 millions d'électeurs qui vont voter, ça sera un désastre pour le pays parce que ça finira dans la rue. Si, en revanche, on arrive à mobiliser 40 millions des 47 millions, il peut se passer beaucoup de choses. Et moi, c'est ça ma mission. Si je suis aussi convaincu
le vote, candidat, sinon le chaos, la violence, c'est ce que vous dites.
Mais bien évidemment, est-ce que vous voyez à quel point notre société est en train d'imploser? Communautarisme, appauvrissement, je voyais un article dans le journal sur les villes moyennes, certaines villes moyennes qui sont en train de sombrer, dégoût de la politique parce que ce n'est que petites phrases polémiques, combat de boxe, minables, et les Français attendent autre chose. Et donc, moi, je suis frappé de voir à quel point bon nombre de nos concitoyens, quand je les croise dans la rue, dans le train, partout, ils me disent quoi? Ils me disent, on ne regarde même plus, on est replié sur nous-mêmes, beaucoup de jeunes quittent le pays. J'ai rencontré un camionneur sur une aire d'autoroute qui venait, qui m'a vu, il m'a dit, bravo, je vous suis sur l'affaire vaccinale. Il m'a dit, je quitte le pays, j'ai 24 ans, je vais aller travailler ailleurs, puisque je suis en train de perdre mon boulot parce que je ne suis pas vacciné. Vous vous rendez compte, un pays où les jeunes s'en vont? Un pays où les jeunes partent? Mais c'est dramatique. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on élève le débat, qu'on dise aux Français, voilà comment on va redresser le pays, voilà comment on va rassembler les gens et pas de trouver des boucs émissaires. Ouais. Parce que Mélenchon, c'est les flics, Éric Zemmour, c'est les étrangers, et les autres. C'est pas possible de continuer comme ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas être ferme sur l'immigration, ferme sur la sécurité, je l'ai toujours été. Ouais. Mais il y a un moment, il faut peut-être prendre un peu de hauteur. On n'attend pas d'un président de la République un catcheur, un boxeur. Et là, Macron a une énorme responsabilité, parce qu'il a tellement affaibli la fonction qu'en vérité, certains veulent lui ressembler quelque part.
Bon, les auditeurs au 0826-300-300,
oui,
ensuite,
c'est
Éric Revel et Arlette Chabot, toujours. Bonjour avec vous pour ce petit déjeuner de la présidentielle avec vous, Nicolas Dupont-Aignan.
Et direction Noisy-le-Grand avec Hubert. Bonjour Hubert, bienvenue.
Bonjour à toute l'équipe de Sud Radio. Vous êtes vraiment une radio super super et vous avez invité un super candidat aussi. Parce que je suis vraiment d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais malheureusement, monsieur Dupont-Aignan, pour moi vous êtes un petit candidat. Je suis d'accord avec toutes vos idées, mais tout seul, vous ne pouvez pas arriver au deuxième tour, c'est impossible.
Donc, quelle est votre question, Hubert, alors?
Et je voulais féliciter M. Dupont-Aignan aussi, parce que je l'ai vu...
Votez pour moi, au lieu de me féliciter.
coronavirus.
Oui.
Et vous avez interrogé un Camerounais en Normandie, je crois, dans la région de... Dans l'Eure, je crois, du côté du Mont-Saint-Michel, je pense.
Et donc, votre question, Hubert, c'est, donc vous n'y arriverez pas tout seul, il faut vous ralliez, c'est ça, Zemmour, Le Pen ou quelqu'un d'autre, quoi. C'est ce que vous voulez dire,
oui,
non?
Oui, moi, Mathieu Dupont-Aignan, tout ce qu'il dit, j'approuve vraiment tout ce qu'il dit, les réformes qu'il va faire, mettre des référendums en évidence et tout ça. Tout ça, c'est très bien, mais tout seul, il n'y arrivera pas. Et moi, je dis qu'il faut qu'il rejoigne Marine Le Pen. Il y a pas...
Ah, Marine Le Pen, vous vous dites, bon, ouais.
Écoutez.
Alors, bon, il va vous répondre sur Marine Le Pen ou Éric Zemmour, de nouveau.
La question très simple.
Je veux pas d'Éric Zemmour.
Vous voulez pas d'Éric Zemmour.
Zemmour, il ne sera pas au deuxième tour non plus, alors...
Ouais, bon, d'accord. Écoutez, et Valérie Pécresse, Hubert, non?
Écoutez...
Bon, d'accord, voilà la réponse.
Moi, je vais répondre à Hubert. Chose très simple, est-ce que c'est les sondages qui décident ou est-ce que ce sont les Français? Voilà. Est-ce que les Français veulent se prendre en main et voter en fonction de ce qu'ils pensent? J'ai envie de dire à l'auditeur, votez pour moi, pour exprimer ce que vous pensez, si vous pensez que c'est moi. Si vous pensez que c'est Marine Le Pen, votez Marine Le Pen. Vous êtes libre. Quand est-ce que les Français vont sortir de cette espèce d'aliénation au sondage. Oui. Vous savez, il y a des pays où on ne publie pas les sondages pendant un mois avant, 8 jours avant. Il y a des pays beaucoup plus où ça évolue très vite. Moi, je maintiens que les Français, à un moment, se diront qui on voit à la tête de l'État. Voilà. Est-ce qu'on voit Madame Le Pen, Monsieur Zemmour, Monsieur Dupont-Aignan, Madame Pécresse, Monsieur Macron, Madame Taubira, Monsieur Mélenchon, oui. Monsieur Jadot, voilà. Et ils choisiront. Ben, écoutez. Je ne suis pas prétentieux, mais je pense franchement que je ne vois pas les autres et que je me vois bien. Voilà.
Bon, Éric Revel, question et Arlène Chabot. Éric.
Ouais, Nicolas Dupont.
Non, mais il y a un moment, pardonnez-moi,
si on est candidat.
Moi, je vous trouve un certain courage parce qu'à chaque élection, vous êtes quand même cornerisé, vous êtes mis dans le coin du ring, vous remontez sur le ring, vous essayez avec des moulinets de taper. Bon, très bien, mais cet auditeur, il a plein de bon sens. Il se dit, bon, Dupont-Aignan, il a peut-être de bonnes idées, mais il n'y sera pas. Donc moi, je vais vous poser une question et je vous demande de ne pas prendre un échappatoire, vous voyez, plutôt de venir dans mon impasse. Si vous n'êtes pas présent au second tour, vous appelez à voter pour qui?
Mais je ne sais pas qui va y avoir au second tour.
Non, bon, allez.
Pourquoi vous ne posez pas la question à Valérie Pécresse?
Quand elle viendra, on lui posera la même question. Mais c'est intéressant.
Je ne sais pas qui est au second tour.
Parce que si vous voulez, sur la question de la radicalité, vous n'avez pas tort, monsieur Dupont-Aignan. Vous n'avez pas tort sur la question de la radicalité. Malheureusement, c'est ce concept qui s'est emparé de la présidentielle 2022.
Mais vous en savez rien?
Bah si, on le voit bien. Zemmour, il incarne une forme de radicalité.
C'est ce qui s'est emparé.
Mais attendez, vous en savez rien parce qu'en réalité, vous n'avez pas pris le train.
On ne vous entend plus.
Vous n'avez pas pris le train de la radicalité.
Non, j'ai pas pris le train de la démagogie.
Et c'était ça aussi qui m'a un peu inaudible aujourd'hui dans ce combat de boxe.
Mais
dites-moi la vérité.
Je vous dis ma vérité. Si je suis candidat, c'est parce que j'ai une autre idée de la fonction présidentielle et que je pense qu'il y a des Français qui ont peut-être envie aussi d'un candidat différent. Voilà. Et je suis, très surpris de la manière dont les médias analysent cette présidentielle, car je n'ai pas la même analyse. Je crois qu'à l'arrivée, ça ne sera pas obligatoirement ce que vous croyez. Et que ceux qui font de la radicalité un commerce seront peut-être sanctionnés aussi. Vous savez, les Français n'ont rien décidé. La campagne n'a pas commencé. Elle se jouera dans le dernier mois. Donc, je me méfie beaucoup des commentaires. C'est mon grand âge, à force d'avoir vu beaucoup de campagnes. Méfiez-vous. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, Chirac-Balladur, c'était pas comme ça. Attention, les Français sont beaucoup plus sages que vous le croyez. Et je pense que ça leur fera pas de mal d'avoir ma candidature.
Vous n'êtes pas commentateur, Nicolas
Dupont-Aignan. Ça leur fera pas de mal d'avoir ma candidature. Je suis un homme politique, je vais me battre pour la liberté des Français, pour la démocratie, pour un changement de l'Union européenne. On ne parle plus de l'Union européenne. Je suis fidèle à mes convictions. Eh bien, écoutez, ils choisiront.
Oui.
Et c'est eux qui sont les maîtres du jeu. Mais je ne vais pas à l'avance, sur la foi de sondages, de commentaires, abandonner ceux qui me soutiennent.
Nicolas Dupont-Aignan, c'est vrai qu'il y a...
Vous verrez.
Et c'est vrai qu'il n'y a pas que les sondages, puisqu'il y a aussi le nombre de candidatures. Quoi,
mais le nombre, on a le même... discours la dernière fois.
Nicolas Dupont-Aignan,
ça a fini à 10 candidats, comme à chaque fois. Arrêtez avec ce tout. Parlons des questions. Comment on va remplir le plein d'essence? Comment on améliore la situation des Français concrètement?
C'est ce qu'on a évoqué là,
Madame
tout à l'heure.
Est-ce que Mme Taubira, M. Machin, ça c'est votre boulot, c'est normal. Ça n'intéresse plus les Français.
Mais par exemple,
ne les intéresse plus.
Si Éric Zemmour et Marine Le Pen s'étaient alliés, est-ce que vous pourriez les rejoindre?
Mais je suis candidat. Et écoutez, je suis gaulliste, candidat.
Oui, mais vous n'êtes pas certain d'avoir vos
mais
parrainages.
Mais je les aurais. Mais pourquoi vous voulez absolument
bah, mais parce qu'on voit bien que tout le monde...
Je serai candidat.
Non, mais
j'ai
on
le
veut
droit
pas
d'être
vous
candidat.
Exclure. Hein.
J'ai des gens qui me soutiennent.
Ouais.
Voilà. Il y a quand même eu 1 700 000 Français. C'est pas rien qui ont voté pour moi la dernière fois. Dans une situation qui était beaucoup plus dure pour moi. J'étais à 0,5. Mmh. 0,5 dans les sondages. Il y avait Fillon à 25 et il y avait Le Pen à 30. Mmh. Donc arrêtez avec tout ça.
Ouais.
Vous ne m'empêcherez pas de proposer aux Français un choix. J'ai chiffré mon programme, il y a 100 décisions. J'appelle au bon sens des Français. Et ça leur fera peut-être du bien d'avoir quelqu'un de différent.
Est-ce que vous craignez l'abstention ?
Oui, mais bien sûr, je vous l'ai dit. Je souhaite mobiliser les Français. Et je suis certain que
mais
si
vous
je
la craignez à combien ? Parce que là, elle était...
Mais j'en sais rien. Je ne suis pas devin. Ce que je sais, c'est que les Français sont écœurés par ce jeu. Et je suis candidat aussi pour ça. Parce qu'entre nous, si on les limitait à Zemmour, Le Pen... D'un côté qui se déchire comme des gougnafiers, de l'autre Pécresse qui sans doute ira rejoindre Macron, ben, je pense qu'il y aurait besoin d'autre chose. Et je vois tous les jours des gens qui m'écrivent en disant merci d'être candidat. Donc je vais pas me laisser impressionner par les commentaires.
Merci Nicolas Dupont-Aignan. On va suivre cette campagne. Petit déjeuner présidentiel. Donc tous les autres candidats vont défiler au micro.
Et aller sur Internet lire mon programme sans proposition très précise
voilà,
avec chiffres.
On l'a vu tout à l'heure. Ben
et
oui,
les
oui.
autoroutes, c'est 24 milliards remboursés en 6 ans à 4 milliards de dividendes.
Merci de voilà. cette merci précision. Beaucoup. On va débriefer dans un instant avec Arlette Chabot et Eric Revel. Et puis dans 10 minutes maintenant, la vérité en face sur Sud Radio, la question des parrainages.
Ouais,
est-ce qu'il
faudra... Oui.
Il faut réformer tout ça. Oui. Nous aurons une spécialiste qui sera avec nous en studio. Important. Et puis, nous aurons des maires au téléphone et qui sont divisés.
Oui.
Certains disent, moi, il n'est pas question que je donne. D'autres qui donneront. Ce sera de 9h30 à 10h. Restez bien avec nous.
Restez avec nous, 9h19. À tout